Bonjour, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast La Voix des Invisibles. Ici, on parle de ceux que l'on n'entend pas. Ici, on met en mots des parcours de travailleurs sociaux. Et ici, en toute simplicité, je leur donne la parole pour qu'ils puissent se raconter, nous raconter, par où ils ont commencé, par quoi ils sont passés, leur quotidien de travail, là ou les situations marquantes qu'ils ont accompagnées, le ou les publics pour qui leur engagement est plus fort, parce que oui, on a tous nos préférences. Qu'est-ce qu'ils retiennent de toutes ces rencontres humaines, leur avis sur le travail social d'hier et celui d'aujourd'hui, et bien plus encore. J'espère que vous trouverez ces parcours aussi inspirants et enrichissants que moi. Belle écoute à vous. Corinne, elle est assistante familiale depuis 9 ans. Elle a accueilli une vingtaine d'enfants chez elle, à son domicile. C'était la collègue binôme de Séverine de l'épisode 14, que j'en profite pour remercier ici car c'est elle qui m'a soufflé l'idée de pouvoir interroger un binôme. C'était primordial pour moi de recueillir le récit d'une assistante familiale, ce métier aussi ancien que peu valorisé. Dans cet épisode, Corinne évoque avec beaucoup de justesse l'engagement qu'elle dit nécessaire pour exercer sa vocation. Elle nous parle de ce métier pour lequel on ne peut pas fermer la porte le soir et couper, du soutien de sa famille, de ses collègues et de la relation avec les enfants qu'elle accueille. Je vous laisse découvrir son témoignage qui nous démontre un engagement sans limite. Belle écoute à vous. Bonjour Corinne et merci d'avoir accepté de témoigner sur La Voix des Invisibles. Je vais vous laisser vous présenter, nous dire de quelle formation vous êtes, depuis quand vous êtes dans le social.
Bonjour Camille, donc je suis Corinne, j'ai 58 ans maintenant. Je suis à la base comptable. J'ai très peu en comptabilité, enfin 13 ans, mais dans le médico-social. Donc, j'ai travaillé pour un CESAD.
Okay.
Et je détestais la comptabilité parce que quand j'étais petite, je voulais faire puéricultrice.
D'accord. Bon,
ça n'a pas pu se faire pour plein de raisons. Donc, j'ai fait un BEP comptabilité à contre-cœur. Hein. Mais voilà, j'ai toujours eu une approche sociale envers les gens. Voilà, je suis un petit peu l'assistante sociale de tout le monde autour, là. Et donc, au bout de 13 ans de comptabilité dans le CESAD, j'en avais assez, mes filles avaient grandi. Et j'ai décidé de me lancer en tant qu'assistante familiale.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les contours, nous définir un petit peu quelles sont les missions d'une assistante familiale?
Alors, une assistante...
Pour ceux qui ne sauraient pas du tout.
Une assistante familiale, c'est une personne, moi je dirais que c'est une famille, parce que voilà, c'est la famille qui s'occupe d'enfants qui sont placés par l'ASE. Ça demande vraiment beaucoup d'implication et d'accompagnement parce qu'on accueille beaucoup d'enfants avec de gros problèmes maintenant de comportement, de psychologique c'est vraiment le fait de les aider à grandir malgré leur situation. Voilà, et essayer à ce qu'il soit le mieux possible.
Bien sûr. Et du coup, comme vous le disiez très justement, c'est une famille qui accueille. Vous, votre famille, elle est composée de
Alors, qui de moi et de mon mari maintenant, parce que mes filles sont parties. Alors, j'ai toujours mes filles qui sont quand même très impliquées.
D'accord.
Pour nous épauler, parce que des fois, on a besoin aussi que quelqu'un prenne un peu le relais, parce qu'il y a un enfant qui demande beaucoup plus d'attention ou pas. Et ça nous permet aussi de déléguer si on a des rendez-vous. Essentiellement, moi, elle se compose là actuellement, parce que moi, les enfants, je les inclus dans ma famille. Donc là, j'ai 3 petits. Alors 2 en tant qu'assistante familiale et le 3e en tant que tiers digne de confiance.
Alors, est-ce que vous pouvez, du coup, c'est plein de nouveaux mots, en tout cas sur ce podcast, qu'on n'a pas forcément abordé avant dans les épisodes précédents. Un petit peu, du coup, le rôle et le binôme éducatrice spécialisée et assistante familiale, puisque j'ai eu la chance d'interroger Séverine, que vous connaissez du coup bien, il me semble. Mais tiers digne de confiance, on ne l'a pas abordé. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que ça implique et la différence avec assistante familiale, en tout cas la différence de statut?
Le tiers digne de confiance, c'est... un enfant qui est placé chez le tiers digne de confiance directement par le juge avec accord du parent. Voilà. C'est une. Enfin, on a comme qualité le même rôle qu'une assistante familiale, va-t-on dire, sans l'autorité parentale, quand même. Et on est assisté là par un service d'AEMO. Donc, voilà. Et c'est bénévole.
Donc, c'est un enfant que vous avez rencontré comment? Comment vous êtes devenu tiers digne de confiance?
C'est mon deuxième accueil. C'est un petit garçon que j'ai accueilli qui avait 9 mois et qui est resté chez moi jusqu'à ses 2 ans et demi. Il est retourné chez son papa. Il venait souvent en week-end, les vacances. Voilà, je l'ai pas lâché, ce petit garçon. Et ben, jusqu'à l'année dernière où il y a eu un gros souci et le petit s'est retrouvé en foyer. Et donc, je me suis proposée pour devenir tiers digne de confiance. Et puis voilà, c'est comme ça. Ça fait presque un an que je l'ai là, en tiers digne de confiance. Et j'ai renouvelé pour une année.
D'accord. Il a 9 ans. Quand vous dites, je ne l'ai pas lâché, c'est-à-dire que vous avez continué à prendre des nouvelles de lui, vous avez continué à l'accueillir chez vous.
Oui, j'ai continué à l'accueillir chez moi très régulièrement parce que le papa avait des gros soucis, donc voilà. Et puis c'est un petit qui a un gros souci aussi, qui a un syndrome d'alcoolisation fœtale, et que voilà, que j'ai développé, enfin que j'ai aidé à évoluer de ses 9 mois à 2 ans et demi, et puis que je continue là parce qu'il a des grosses difficultés et dû à ses troubles du comportement, d'attention. Enfin bon, c'est très compliqué, mais il est à la maison parce que c'est comme ça. C'est notre petit...
D'accord, ok.
Puis il a été élevé avec un autre que j'accueille en tant que famille d'accueil. Ils ont 6 mois d'écart, donc voilà, ils sont un petit peu frères, comme ils disent. Ce sont des frères d'accueil.
D'accord, c'est un joli terme, ça, frère d'accueil. Ce que là, on peut déjà, je trouve, remarquer dans ce que vous nous livrez, c'est que la... distance dont on parle très souvent dans le travail social. Alors, la bonne distance ou la bonne proximité, ça dépend le point de vue qu'on prend. C'est que c'est difficile pour vous, en fait, de mettre une bonne distance ou une bonne proximité puisque ces enfants sont chez vous et que quand vous les accueillez, vous dites que vous les lâchez pas, vous devenez tiers digne de confiance. Donc, il y a une implication qui n'a pas les mêmes limites que quand on œuvre en maison d'enfants à caractère social ou ailleurs, en tout cas. Comment vous avez géré un petit peu ça? Est-ce que vous imposez, vous, des limites? Est-ce que vous savez faire la part des choses ou est-ce que justement il n'y a pas de part des choses?
Au début,
faire
je ne savais pas faire la part des choses, donc ce qui m'a valu beaucoup d'implications, surtout sur les premiers accueils. Maintenant, et puis tout dépend de la situation familiale de l'enfant, va-t-on dire aussi, parce que un enfant qui n'a pas de visite, qui n'a pas de parents présents, voilà, j'ai du mal à mettre des limites parce que je trouve qu'il a besoin quand même d'un cadre sécurisant et il a besoin d'affection. Un petit garçon ou une petite fille qui aurait des parents très présents et qui se battent, là on peut se mettre des limites différentes en laissant une place toujours aux parents. Il faut toujours laisser la place, même s'ils sont absents, on leur laisse leur place. Mais c'est pas la même implication. On arrive à se mettre des barrières, comme je dis. Moi, je me mets des barrières pour pas trop lier. Enfin, il y a de l'affection, il y a de l'amour, parce que mais c'est pas c'est pas la même chose. Je sais pas comment expliquer. C'est pas le même sentiment. C'est pourtant une histoire de sentiments. C'est... Et puis, il y a des fois, les rencontres ne se font pas aussi. Ça peut arriver qu'avec des enfants, ça ne passe pas.
Vous avez dit que vous aviez eu beaucoup d'implications sur les premiers accueils. Comment ça se matérialise, beaucoup d'implications?
Vous savez, quand le premier accueil, c'est un bébé de 13 jours, que vous allez le chercher à la maternité, que vous le gardez pendant 4 mois.
Oui, d'accord.
Et qu'après, il est adopté. Eh ben, au début, c'est dur.
Oui.
C'est dur.
Effectivement. Est-ce que vous êtes sentie épaulée, accompagnée par le service pour lequel vous travaillez?
Le service, la PMI, à l'époque c'était la PMI qui était encore avec les assistants familiaux, qui donnait les agréments, et la puéricultrice du PMI est venue à la maison, m'a aidée pour pas mal de gestes que j'avais perdus, hein, parce que voilà, hein, moi mes filles avaient plus de 20 ans, un peu plus compliqué pour se remettre à trouver les bons soins, puis les méthodes ont changé pour les petits. Voilà, et puis l'accompagnement moral, psychologique, parce que c'est...
Ouais, c'est sûr.
Au bout d'un moment, c'est vrai que pour le premier accueil, je me suis quand même réussi à me poser la question, et si moi je l'adoptais, ce petit? Vous voyez?
Eh oui. J'allais vous demander si vous n'étiez pas posé la question, justement. Puisque vous étiez la personne... là au début, en fait. Donc la question est posée, j'imagine.
C'était... Moi, j'ai eu la chance d'avoir des enfants. Ils étaient grands. Maintenant, je suis plus l'âge d'être grand-mère. Et voilà, je pense que le petit est mieux maintenant avec des parents qui l'attendaient depuis très longtemps. Donc, mais par contre, la seule chose que je peux regretter, c'est de ne pas avoir de nouvelles.
Ah oui, du coup, vous n'avez pas de nouvelles sur le premier accueil.
Non. Mais bon, c'est...
Ok. D'accord, ça fait combien de... On n'a pas dit, du coup, ça fait combien de temps que vous êtes famille d'accueil et tiers digne de confiance?
Alors, je suis famille d'accueil depuis août 2013.
D'accord.
Et tiers digne de confiance.
Donc,
juillet 2021.
Ça pour qu'on ait une petite idée, ça représente combien d'enfants depuis 2013 qui sont passés
par... Il y en a un qui est toujours là
depuis,
alors 2013, celui que je suis en tiers digne de confiance, je l'avais accueilli en 2014. Je sais pas, ça fait bien une vingtaine peut-être. Entre les relais, les enfants qui viennent que pour quelques mois, qui partent, oui, on en voit beaucoup. Et moi, j'ai de la chance, j'en ai quand même quelques-uns qui sont rentrés chez leurs parents, donc je me dis, on a réussi.
C'est ça l'objectif, un petit peu, à demi-mot, c'est qu'il y ait un retour chez leurs parents et que vous puissiez vous dire, bon, ben voilà, on a pris soin de lui à un moment donné, quand les parents étaient peut-être un peu empêchés, et maintenant il y a un retour et ça se passe bien, ça, c'est gratifiant pour vous.
C'est vraiment la chose la plus importante. Parce que voilà, on n'a pas vocation à être des parents de remplacement. Donc,
mais ça, c'est du coup très difficile, j'imagine, de se détacher de ce rôle de parent de remplacement quand on accueille chez
compliqué.
Soi.
Et comme je dis, ça implique tout le monde.
Vos enfants, ils ont participé du coup aux accueils, j'imagine. Et puis comment on prépare du coup une famille à l'arrivée d'enfants extérieurs qui vont aller et venir, vous l'avez dit, environ une vingtaine d'enfants, alors même si vos enfants étaient plutôt grandes, ce que j'ai compris, ils traversent quand même les accueils avec vous, comment on prépare des enfants à ça, comment on les accompagne eux aussi?
Comment dire, je sais pas, pour elles c'est naturel, j'ai l'impression que voilà, on a... Quand je dis, tiens, je vais avoir un nouvel accueil, c'est vrai, je vais en avoir une petite fille qui va bientôt arriver en plus, là. Vous voyez, il y en a une, elle est venue m'aider à préparer la chambre. Voilà, ça se fait naturellement. Je n'ai pas besoin de les accompagner, c'est naturel.
Tout le monde participe à l'accueil et tout le monde, ok, investi. C'est super chouette. Qu'est-ce qui est le plus difficile et le plus facile dans ce rôle de famille d'accueil ?
Je dirais que c'est la fatigue psychique le plus difficile. Le plus facile, bah, c'est de les considérer comme ses propres enfants. C'est ce qu'il y a de plus simple. Je ne sais pas.
C'est-à-dire faire comme si c'était... Enfin, vous faites comme si c'était votre enfant dans les démarches que vous feriez.
Oui, voilà, on essaye de les emmener
des accompagnements,
comme si...
Dans...
Bon, pour certains, il y en a, ce ne sera pas possible, on le sait. Mais notamment un que j'ai chez moi depuis 8 ans maintenant. Voilà, lui, je sais qu'il restera là très longtemps et je pense qu'il... Voilà, on fait tout comme si c'était notre propre enfant, tout en sachant qu'il a sa famille. Enfin, sa famille, il a sa maman et il sait qu'elle est défaillante pour pouvoir l'aider. Donc, voilà, il sait qu'il peut compter sur nous et que... D'ailleurs, il veut faire aucun relais, c'est-à-dire que moi, je pars jamais en vacances, sauf avec eux. Ou alors, il part en colonie parce qu'il ne supporte pas d'être ailleurs.
Donc, quand vous partez en vacances, vous décidez de prendre vos vacances avec les enfants que vous accueillez chez vous.
Enfin, c'est pas des vacances, mais c'est pas
D'accord.
grave.
Du coup, oui, c'est un changement d'environnement.
Ça demande des déplacements, un petit déplacement avec les enfants.
Quand je reviens sur le fait que vous avez du coup un enfant qui est chez vous depuis 8 ans et que vous dites qu'il est encore chez vous pour longtemps. C'est vrai que parfois, on sait que sur certaines familles, il n'y aura pas forcément d'évolution qui permettront un retour. Comment on envisage... les 18 ans d'un enfant, puisqu'on sait que entre 18 et 21 ans, en tout cas, s'il y a un contrat jeune majeur, s'il y a une préparation à l'autonomie, tout ça, quoi que ce soit, à un moment donné, ça s'arrêtera pour vous. Comment on arrive à se dire que c'est fini? Comment on se détache un petit peu d'un enfant qu'on accueille autant de temps? Est-ce que pour...
Ça ne m'est pas encore arrivé, parce que j'accueille que des petits pour l'instant, c'est-à-dire que voilà, je les ai pris tout petits, je les
D'accord.
accompagne, je grandis avec eux. J'ai du mal à imaginer la fin, parce que pour moi, je dis qu'il n'y en aura pas. Je me dis que de toute façon, ma porte, elle sera toujours ouverte. Et voilà, s'il a besoin, il sait qu'il pourra. S'il n'a pas envie de partir, il restera là. Voilà, parce que bon, je pense que quand il aura atteint ses 18 ans, j'aurai aussi atteint l'âge d'arrêter.
Donc, D'accord.
Voilà, donc ce sera lui qui va... Bon, s'il reste jusqu'à ses 18 ans, parce qu'on ne connaît pas non plus comment va se passer l'adolescence. Moi, j'ai vu à travers des collègues où ça se passait très, très bien, des enfants qu'elles ont accueillis petits, pareil, et puis à l'adolescence, ça casse, on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc je suis à l'abri de rien. Bon, pour l'instant, je vois ça un peu rose. Je me dis, oui, on va arriver jusqu'à la fin, mais on verra bien.
Oui, effectivement. D'accord. Comment ils vous appellent?
Ils m'appellent Nanou.
Donc, ils ont ils n'utilisent pas votre prénom d'usage, mais plus un prénom qui n'est pas maman ou un prénom qui est plus connoté d'un lien établi. Mais du coup, il y a quand même un prénom d'un lien affectif.
Mais souvent, c'est Tata. Mais moi, je trouvais que les Tatas, il y en a partout, parce que bon voilà, dans leur famille il y a des tatas, et moi je veux bien montrer que c'est un rôle à part, c'est pas pareil. Alors ils ont essayé de m'appeler maman Nanou, mais non, on met quand même certaines règles, non, ils ont une maman, ils ont un papa, voilà, c'est pareil.
Oui, bien sûr. C'est quoi votre rythme un petit peu au quotidien, en tout cas, parce que on imagine très bien le rythme d'aller à l'école ou d'aller sur d'autres institutions si l'enfant peut dépendre du secteur médico-social, comme un IME ou quelque chose comme ça. Du coup, le rythme avec peut-être les rendez-vous que vous avez dans le service par lequel vous êtes embauché et le rythme des visites aussi du travailleur social référent de l'enfant. Enfin, c'est si vous aviez un petit peu une journée type, ou en tout cas nous dire un petit peu par quoi est rythmé votre
quotidien. Oui, alors
quotidien.
Tout dépend des situations des enfants, notamment le petit dernier que j'ai là actuellement, il ne peut pas être scolarisé tout le temps. Donc, par exemple, je vais prendre le vendredi. Je l'emmène donc à l'école de 8h30 à 10h30. 10h30, je vais le chercher. Mm-hmm. Bon, il faut que je le change. Enfin, comme un... Bon, il a 4 ans, mais il a encore des couches. Enfin, bon, il faut encore... Voilà, faut le préparer. Après, on part pour notre service qui est à une demi-heure de la maison. Et là, mm-hmm. il va voir ses parents. Donc, qui dure, ça dure à peu près 2-3 heures. 3 heures. Donc, en attendant, ben, bon, moi, je fais soit des allers-retours parce que j'ai d'autres rendez-vous ailleurs pour moi personnellement, ou j'attends sur place, ou j'ai une réunion. Souvent, j'ai une réunion, alors ça m'arrange, comme ça, je ne bouge pas. À 15h30, je le récupère, je file à l'école, récupérer les deux grands, et ensuite, je redépose un grand à mon époux, et le petit tiers digne de confiance, là, il va en week-end chez son papa, donc je reprends ma voiture et je fais 50 km pour aller le déposer. Donc, le travail d'assistant familial, c'est aussi taxi.
Voilà. D'accord. Mais... Effectivement, là, ça demande une gymnastique.
Oui, il faut jongler avec les activités de chacun. Voilà, il faut être, faut être bien organisé parce que sinon, ça dérape.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, bon. Justement, vous parliez des réunions que vous pouvez avoir là sur votre service, et avec Séverine, on a évoqué la question de la place de chacun entre le service, l'assistant familial et puis le travailleur social référent de l'enfant. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce triangle-là ou de ce binôme que vous avez avec le travailleur social? Comment vous l'appréhendez? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne toujours pareil? Est-ce que c'est différent? Comment vous vous sentez, vous, dans ce triangle-là?
C'est différent suivant les personnes. C'est un peu comme partout. Hein, voilà, il y a des binômes ou des trios qui fonctionnent super bien parce que voilà, on se connaît depuis longtemps. Comme c'était le cas avec Séverine, ça fonctionnait super bien parce que elle connaissait très bien le petit. Moi, elle avait appris à me connaître, moi j'ai appris à la connaître, et c'est vrai qu'on pouvait se permettre on pouvait se parler librement de tous les problèmes. D'accord. Mais c'est encore le cas actuellement, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de mouvements de personnel ces temps-ci. C'est comme dans le secteur médico-social, maintenant, il manque des employés. Hein. Il n'y a plus d'éducateurs, il n'y a plus d'assistants familiaux. C'est pas une vocation qui attire. Et donc là, c'est vrai que ces temps-ci, c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive. Il y a toujours quelqu'un pour nous épauler. Voilà. On a besoin d'être épaulé parce que voilà. Il y a des fois, les enfants, ils nous en font voir de toutes les couleurs.
C'est ce que j'allais vous demander. Du coup, vous avez quand même besoin d'être épaulé. Vous avez besoin d'être aiguillé aussi parfois sur... Ça fait 3 jours que ça se passe mal, je ne sais plus quoi faire. Et de partager du coup avec un ou une collègue et dire... Comment on fait, c'est quoi l'issue, et j'imagine aussi avoir besoin de moments d'analyse de la pratique pour savoir.
Oui, ça c'est très important, l'analyse de la pratique.
D'accord, c'est un lieu que vous investissez particulièrement.
Oh, moi j'ai même fait mon analyse de la pratique en extérieur toute seule à un moment. J'ai été voir un psychologue aussi pour m'aider à sortir justement de l'attachement peut-être que j'avais trop pour certains enfants, et le fait d'accepter leur départ, des fois c'est très compliqué aussi, parce que ça, c'est de l'humain, hein, comme je dis, ce sont nos émotions, et donc c'est vrai que moi j'ai été voir une psychologue à l'extérieur, à l'époque je n'avais pas l'analyse des pratiques, il n'y avait pas assez de groupes, donc ce n'était pas encore mis en place pour moi, et donc il fallait que j'aille déverser, comme je dis, quelque part pour pouvoir tenir. Voilà. Parce que des fois, c'est...
Bien sûr, être bien pour bien accompagner, c'est le leitmotiv. Effectivement, et trouver un lieu où on peut déverser, comme vous dites. En tout cas, analyser un peu ce qu'on ressent et ce qu'il faut faire et ce qu'on peut faire, et réfléchir juste, et puis en parler à l'extérieur, c'est très, très important. J'imagine que l'intensité, quand on accueille chez soi, elle est encore différente sur la sollicitation, sur les émotions, parce que quand c'est, ça devient trop intense, vous ne pouvez pas vous dire « je rentre chez moi puis, », et puis finalement, c'est silencieux, et puis je peux couper, en fait. Vous, comment vous faites quand ça devient trop? Est-ce qu'il y a des relais qui se mettent en place?
Les enfants ne bénéficient pas de relais chez moi. J'ai vraiment du mal à les lâcher, comme je dis. Non, puis j'accueille des situations où ce n'est pas trop possible non plus. Souvent, ce n'est pas trop possible parce que ça va perturber plus l'enfant qu'autre chose. Donc, voilà. Non, moi, je vais faire un tour dans mon jardin, en principe, quand je vois que ça va exploser. Je vais m'aérer. Je laisse un petit peu. Je fais prendre le relais, soit par mon mari, soit par une de mes filles que j'appelle à la rescousse en disant, bah, viens, parce que là... Voilà, je suis à bout, ils vont trop loin. Mais ça n'arrive pas très souvent. J'ai de la chance, ça n'arrive pas très souvent. D'accord. Mais en plus, bon, comme je dis, on ne bouge pas tous les jours non plus. Et j'ai des moments où, quand ils sont à l'école, je peux aussi profiter du calme. Et...
couper.
Comme je dis, la deuxième journée commence après 16h30. Quand ils arrivent tous de l'école et que là, ça recommence à s'agiter.
Oui, bien sûr. À s'agiter, ouais, à décharger pour eux, effectivement. Ok, est-ce que vous êtes présente quand l'enfant, du coup, est reçu par le juge des enfants pour un renouvellement de placement ou pour quelque chose de cet ordre-là? Est-ce que vous êtes présente au sein du...
Nous, on n'est pas présents. Dans notre association, les assistants familiaux ne participent pas à l'audience. Nous, on a un retour d'audience qui est fait par les éducateurs, mais on ne participe pas à l'audience.
Je ne savais pas trop que c'était comme ça, mais vous en pensez quoi? Est-ce que vous aimeriez assister? Est-ce que ça vous convient que
tout dépend des situations, comme je dis. Ça, tout dépend des situations. Mm-hmm. Il y a des situations où les parents sont en plein travail et on voit qu'ils vont vers une évolution positive et qu'ils réagissent un petit peu. Je dis que ce n'est pas la peine, parce que nous ferions que entraver cet élan de... Enfin, comment dire... que la situation s'arrange et donc là, je pense que c'est pas la peine. Par contre, dans certaines situations où les parents sont absents ou qui ne viennent pas aux visites, là, il y a des fois, ce serait bien qu'on soit présent pour pouvoir au moins expliquer notre ressenti. Bon, on l'écrit, on fait des rapports, mais...
Vous faites des rapports à plusieurs,
oui,
du coup ?
Non, c'est-à-dire que nous, on fait une synthèse, ce qu'ils appellent une synthèse, et on discute de l'enfant, s'il a évolué ou pas, et voilà. Et pendant cette synthèse, nous, en amont, nous avons fait un petit rapport de ce qui s'est passé pendant l'année écoulée ou les 6 mois écoulés, tout dépend des échéances, et nous racontons le quotidien de l'enfant, comment il réagit après, avant les visites de ses parents, Et donc, en principe, il est bien restitué, mais des fois, je pense que ce serait mieux de le dire au juge plutôt que de l'écrire. Et en présence de l'enfant, bien sûr. Et souvent, il y a des enfants qui réclament à ce qu'on vienne, mais bon, c'est pas possible.
Est-ce que, du coup, rien que pour le fait de les rassurer, peut-être, en fait, vous êtes une personne en qui ils ont confiance, une audience chez un juge, c'est pas un moment anodin pour un enfant? Et peut-être que certains auraient besoin que vous soyez présente pour les rassurer, pour les contenir, pour leur expliquer.
Il y en a certains, oui. Et puis avant, ils prenaient les tout-petits, maintenant ils le font moins. Même les tout-petits, les bébés, allaient à l'audience alors que ça n'avait pas vraiment de sens pour eux.
Vous, justement, vous évoquiez certains parents pour qui ce n'est pas forcément nécessaire que vous soyez présente, d'autres peut-être un peu plus. Votre place par rapport aux parents, puisque tout à l'heure j'ai parlé de triangle, mais j'aurais peut-être dû parler de carré, en fait, puisque... ma question était orientée sur comment vous fonctionnez avec le service, mais là, du coup, si on repart dans l'idée qu'il y a le service, vous, le travailleur social référent, et puis les parents, dans ce carré-là, vous, votre lien avec le parent, comment il se passe? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des...
Au départ, c'est toujours très compliqué, parce que je pense que les parents nous voient souvent comme une rivale, donc c'est très compliqué. Après, il faut les apprivoiser, leur montrer que vous, qu'on n'est pas là pour prendre leur place. Donc, il y a des parents avec qui ça se passe très facilement. Il y en a d'autres, ça met beaucoup plus de temps. Et il y en a d'autres, ça marche jamais. Voilà, parce qu'ils acceptent pas. Tout dépend si aussi les parents acceptent le placement ou pas. Plus le placement est bien accepté par les parents et qu'ils s'en saisissent comme une chance, on arrive à travailler. Si c'est pas le cas.
D'accord. Ouais, tant que le parent est dans le refus, vous sentez qu'il n'y a pas de travail possible.
Et puis nous, on n'est pas en direct avec les parents, c'est très rare aussi. Enfin, seulement quand... Bon, en principe, les premiers rendez-vous se passent au service tout le temps. Tout dépend si ce sont des visites médiatisées ou des sorties libres. Mais en règle générale, on essaye que les départs et les arrivées se repassent au service pour qu'il y ait toujours un tiers. Et de toute façon, tout dépend des situations. Il y a des situations où un tiers sera obligatoire, dans d'autres, pas, parce que les parents se sont habitués et c'est assez cordial, il n'y aura pas de rivalité. Mais en général, il y a quand même un tiers.
Donc c'est rare que vous soyez complètement en direct avec les parents, ou que vous déposiez un enfant chez son parent, ça c'est plutôt rare, ou
non,
ça vous
chez
arrive
son parent,
de le faire?
C'est toujours sur un lieu neutre.
Non, sur un lieu neutre, ok. Donc un parent ne vient pas non plus chez vous, d'accord. Ça c'est,
normalement,
c'est quelque
arriver,
chose qui ne se fait pas.
Ça peut arriver.
Ça vous est déjà arrivé qu'un parent arrive?
Oui, c'est déjà arrivé. Une fois, mais bon, c'était au début, donc je ne savais pas trop. On a laissé un peu faire, et puis après, on a vu ça avec le service, et puis ça s'est arrangé. Mais oui, les parents, ils peuvent très bien être dans les parages parce qu'ils connaissent notre adresse.
Oui, bien sûr. Et du coup, est-ce que vous vous sentez, vous êtes déjà très impliqué au niveau de votre famille, mais est-ce que vous vous sentez exposé, voire parfois, si je vais un peu plus loin, en danger, quand les parents, vous savez qu'ils peuvent venir à votre domicile? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, une appréhension qu'ils viennent récupérer leurs enfants, qu'il y ait des choses comme ça qui se passent,
c'est pour la situation où je suis tiers digne de confiance, oui, effectivement, je suis pas sereine.
Ouais, ça, vous pensez que du coup ça pourrait se passer. Comment vous gérez ça du coup, puisque là vous dites je suis tiers digne de confiance, mais à titre bénévole, donc ça veut dire que c'est pas le service de placement familial, mais l'AEMO qui est là en soutien. Comment vous arrivez à prendre un peu de distance par rapport à cette appréhension là avec
pas.
L'AEMO
ouais. J'y arrive pas parce que...
C'était une question un peu rhétorique, je connaissais un peu, j'imaginais.
Non, mais j'y arrive pas parce que, vous voyez, même là, je sais que je suis harcelée au téléphone depuis tout à l'heure. Voilà.
D'accord.
Et c'est toujours la même personne.
D'accord.
Donc, c'est très compliqué.
Si c'est pas vous, du coup, qui l'accueillez, cet enfant, c'est un foyer, c'est pas une autre personne quand on est tiers digne de confiance.
Ça pourrait être une autre famille d'accueil, mais voilà, là, on en a le papa, on a clairement parlé à son fils qui voulait qu'il change de famille, et le petit, ça l'a détruit, vous voyez. Parce que ici, c'est là où il a grandi, quoi.
Bien sûr, évidemment. Donc là, dans cette situation-là, vous vous sentez... en rivalité, j'imagine, avec le ou les parents.
Rivalité, non, c'est même pas le mot.
Ouais, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que vous étiez un peu des rivaux, enfin, que
non,
les parents
là,
pouvaient
pas
vous placer
de la rivalité, là, c'est...
dans ce statut-là.
Je sais pas, c'est comme c'est une personne qui est très très mal, c'est pas de la rivalité. Je pense que je me suis lancé un défi, quoi. Je me suis dit. Je pouvais pas le laisser, le petit, parce qu'au départ, je me suis quand même battue un peu avec ma famille, parce que tout le monde n'était pas d'accord là pour le fait que je sois tiers digne de confiance. On a fini par le faire, parce que bon, déjà, c'est un enfant qui est très difficile, et il a un papa très difficile aussi. Voilà, c'est une situation où je sais pas comment dire, je suis. C'est plus de l'affection. Voilà. Le problème, c'est l'affection que j'ai pour cet enfant qui m'a fait devenir tiers digne de confiance. Et Le problème, c'est que si je prenais le petit, je suis obligée de subir le papa. Je sais pas comment vous expliquer. C'est
le triangle, on disait le carré. Du coup, on disait tout à l'heure.
Ouais, mais bon, je suis là pour le petit, je ne suis pas là pour le papa qui a besoin, qui aurait besoin d'aide, mais qui ne veut pas s'en saisir. Donc voilà, moi j'ai tout fait pour. De toute façon, ce petit, c'est comme s'il avait habité chez moi depuis qu'il est parti, puisque c'est moi qui l'habille depuis qu'il est parti de chez moi. Je l'habillais toujours, je lui ai payé son sport. Il pouvait venir à la maison quand il voulait. Je l'emmenais chez le coiffeur. Je l'ai jamais lâché, comme je dis. Voilà. Et donc, je ne pouvais pas. Mais c'est très compliqué.
Ouais, c'est compliqué. Et c'est cette, du coup, j'ai le sentiment, quand vous parlez de ce petit garçon, que vous avez développé un engagement pour lui, en tout cas qui dépasse peut-être un petit peu les limites que vous vous seriez fixées, puisque vous dites que tout le monde dans votre famille n'était pas forcément d'accord, mais vous tentez quand même, vous avez continué à le suivre alors qu'il n'était plus chez vous. D'où il vient cet engagement-là des sentiments et d'affection que vous avez développé pour lui?
Oui, c'était mon deuxième accueil, alors c'est peut-être parce que je n'avais pas fait le deuil du premier, comme je dis. Et puis voilà, là je me suis laissée envahir, puisque j'étais pas prête encore à mettre des limites. Et c'est un peu grâce à cette situation que je m'en suis mise aussi après. C'est-à-dire que là, c'est vrai que le papa avait mon numéro de téléphone, tout le monde avait mon numéro de téléphone. Donc voilà, il n'y avait pas de limite. Si le papa avait envie de m'appeler, il m'appelait. J'ai pas su mettre de limite.
Oui, bien sûr. Bah c'est...
Et ça s'apprend pas. Si on ne nous le dit pas au début, on ne le sait pas. On pense bien faire, on se dit.
Bah, puis c'est, on le sait par l'expérience, mais effectivement, sans expérience, on voit pas forcément le mal tout de suite.
Non, et voilà, ça, donc maintenant, je me suis un petit peu mis des menottes.
D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose peut-être à rajouter avant qu'on arrive sur les dernières questions de la fin, les quatre petites questions de la fin? Est-ce que vous avez envie de nous raconter peut-être une rencontre? Alors vous nous avez parlé un petit peu des enfants que vous avez accueillis, mais là, une rencontre professionnelle ou quelque chose comme ça.
Alors, à partir d'ici, j'ai eu un petit souci avec l'enregistrement. Avec Corinne, on enregistrait à distance et je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, j'ai pu reprendre un petit peu ce qu'elle me disait par rapport à la rencontre. Elle a évoqué une collègue qui lui permettait d'échanger et c'était très important pour elle. Elle a pu dire que c'était précieux d'avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui comprend aussi ce qu'elle traverse et que c'était très important pour elle les moments où elle pouvait débriefer un petit peu et prendre des conseils, ce qui pouvait l'aider à faire un peu différemment et à avancer un petit peu.
Si aujourd'hui, du coup, sur les petites questions de la fin, ma première question, c'est si vous deviez faire autre chose, qu'est-ce que ce serait?
Alors, à la question, si Corinne devait faire autre chose, elle a répondu qu'elle aurait souhaité travailler dans une pouponnière avec des tout-petits.
Si vous aviez la fameuse baguette magique, parfois on bloque un peu sur des situations et on se dit si on avait une baguette magique, on ferait ça ou ça dans une situation précise. Et ben je vous donne une baguette magique là et qu'est-ce que vous en faites?
Et alors, à la question de la baguette magique, Corinne a répondu que si elle avait une baguette magique, elle s'en servirait pour rendre plus visible le secteur du social.
Ça serait une belle utilité de la baguette magique, faire rendre un petit peu plus visible effectivement le secteur du social. Les invitées, puisqu'elles étaient deux précédentes, qui du coup étaient pour replacer un petit peu dans le contexte si les personnes n'écoutent pas l'épisode avant le vôtre, elles étaient éducatrices, elles sont, pardon, éducatrices de jeunes enfants et elles ont monté un projet qui s'appelle Éducœur. Et une fois diplômées, elles sont allées voyager dans trois pays, en tout cas où elles ont passé 6 mois en tout et pour tout, à l'étranger, dans différents lieux qu'accueillent des enfants, des petits-enfants. Donc leur question, je dis ça parce que leur question, elle est assez orientée par rapport à ce qu'elles, elles ont vécu et traversé. Et elles ont eu envie de vous demander quel voyage, au sens large du terme voyage, c'est-à-dire un changement, une évolution dans la manière de penser, une rencontre, t'as le plus marqué dans votre vie professionnelle.
Alors, à cette question sur, assez ouverte sur le voyage, Corinne, elle évoque sa rencontre avec le médecin psychiatre avec qui elle a travaillé quand elle était comptable et qui lui a dit qu'elle serait faite pour être famille d'accueil. Et c'est en l'écoutant et en le rencontrant humainement qu'elle a accepté, comme elle le disait, de faire ce voyage professionnel. Voilà, donc elle dit que c'est grâce à lui qu'elle a fait ce voyage.
Ben, on le remercie, du coup, ce médecin psychiatre. et ben, je vous laisse poser la question au prochain invité.
Et alors, la question que Corinne a choisi de poser au prochain invité, c'est si vous étiez assistant familial, qu'est-ce que vous mettriez en place pour faire connaître ce métier ?
C'est drôle, comme il y a eu beaucoup de questions parce que vous êtes le 16e épisode que j'enregistre et du coup il y a eu beaucoup de questions autour de la reconnaissance, faire connaître, communiquer et ça revient en tout cas sous différentes formes, mais ça revient assez souvent. Merci beaucoup Corinne pour votre temps et votre témoignage, surtout sur une branche du social qu'on connaît trop peu, en tout cas, je trouve. C'est pour ça que c'était important pour moi de mettre en lumière votre parcours et j'espère pouvoir rencontrer aussi plein de vos collègues et qu'on puisse échanger sur ce qu'elles peuvent traverser. Merci beaucoup et à bientôt.
Voilà, c'est la fin de l'épisode. Je suis vraiment désolée pour ce bug des dernières 4 minutes. J'espère que ça ne vous aura pas trop perturbé et gêné dans votre écoute. En tout cas, je tiens à remercier encore une fois Corinne pour son témoignage et pour tout le travail qu'elle peut faire. À bientôt. If you think you're alone, you're not the only one. If you think you're alone, you are wrong. Because what you defend is a gift in your hand. You just have to be proud, say it clear and loud. Because what you defend is a gift in your hand. Just have to be proud, say it clear and loud. Invisible voice for unstoppable choice.